Nous sommes un peu donc dans l'étude du livre de Néhémie et de voir comment que cet homme a ce qu'il a vécu, ce qu'il a mis en place pour le peuple d'Israël, comment qu'il a permis la reconstruction des murailles de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons voir restaurer notre relation avec Dieu à travers l'écoute. Comment que Néhémie a écouté Dieu et quel a été son succès. On ne va pas le voir forcément tout de suite le succès, mais on va voir l'importance de l'écoute pour qu'il puisse avancer, pour que nous puissions nous-mêmes aussi comprendre, saisir aussi l'importance de l'écoute du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, on va continuer de décortiquer la vie de Néhémie dans ces prochaines semaines afin de comprendre ses actions, ses agissements, comment ça a été d'une façon incroyable pour rebâtir la muraille de Jérusalem en 52 jours. On se rappelle que dans du temps de Néhémie, les murailles représentaient la force, le prestige d'une population, d'une nation, étant donné qu'ils protégeaient la ville, surtout la capitale des ennemis. Et là, on sait que toute la muraille avait des brèches, était en ruine, les portes avaient été brûlées. Donc, lorsque Néhémie va apprendre avec quelques personnes qui vont revenir de Juda, que tout est en désolation, que les gens sont déprimés parce qu'ils ont voulu essayer de commencer à bâtir. Il y a eu après des règlements, des interdictions par le roi de Babylone et tout ça qui fait qu'ils n'ont pas pu être capables de rebâtir la muraille. Donc, on sait qu'est-ce qu'il va faire. Il va jeûner, il va prier, il va être dans la tristesse tellement que il est en désolation de voir son propre pays. Rappelez-vous que Néhémie n'a pas habité à Jérusalem. Néhémie a grandi dans la Babylone, dans la région. Mais lorsqu'il voit que son peuple est dans la déprime, que la capitale de son pays est en désolation, c'est là qu'il va prier. Donc on voit hein, Néhémie chapitre 1. On peut ouvrir notre Bible parce qu'on va regarder après quelques versets. Donc Néhémie va faire une prière audacieuse, mais avec tellement d'humilité. Donc, on voit que c'est un signe vraiment d'un homme qui est rempli de la crainte de Dieu, du respect vers Dieu, du désir de remettre sa vie entière sous le regard de Dieu. Hein, Néhémie a adoré Dieu, a exprimé la grandeur, la puissance de Dieu, afin qu'il se rappelle qu'il ne s'adresse pas à un simple Dieu, mais qu'il s'adresse au Dieu trois fois saint, au Dieu du ciel et de la terre. Néhémie, en premier, a reconnu la grandeur, la puissance de Dieu. Donc, il intercède par après pour ses frères du peuple d'Israël, tout en confessant leurs péchés. Et rappelez-vous qu'on le voit dans les versets 6 et 7 du chapitre 1. Néhémie utilise le verset « Nous avons péché, moi et le peuple et mon peuple ». Donc, il se met aussi à la place du peuple. Même si ce n'est pas lui qui a péché, qui a eu la conséquence de la déportation, mais il se met avec le peuple parce qu'il voit qu'il n'est pas meilleur. Il reconnaît qu'il a besoin aussi d'être pardonné, de pouvoir demander la grâce de Dieu. Et c'est vrai qu'on a dit que c'était l'importance aussi. Lorsqu'on veut voir vraiment Dieu agir dans nos vies et Dieu agir dans nos églises, d'accepter aussi, de demander pardon aussi pour ce qui se passe autour de nous. On peut très bien vite chialer, vite dire, ah ben le monde va à la perdition dans le péché, c'est vrai. Mais on a besoin de dire, nous avons péché. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et on a besoin de demander au Seigneur aussi son pardon, afin que le peuple et nous-mêmes, on puisse se détourner du péché et d'aller selon les grâces du Seigneur. La dernière fois, nous avons vu donc la deuxième partie du verset 11 de Néhémie, du verset 11, chapitre 1, qui dit, de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Donc, Néhémie va demander deux choses dans sa prière. Un, faire réussir la démarche qu'il va entreprendre. On sait que ça a pris 4 mois quand il a commencé à prier avant que l'empereur voie la tristesse sur le visage de Néhémie. Durant tout ce temps, Néhémie va continuer de prier, d'implorer Dieu avec larmes, avec persévérance pour que sa prière s'accomplisse. Donc, une première leçon qu'on peut voir, c'est de prier avec persévérance, avec humilité, avec courage, même si on ne voit pas le résultat, de continuer de prier. Des fois, on a besoin de prier pendant plusieurs mois, plusieurs années même, avant de voir la réalisation aussi. On a besoin de persévérer pour voir s'accomplir les prières dans le temps de Dieu. Le deuxième point, que cet homme, il dit, c'est-à-dire le roi, accueille sa demande avec compassion. Donc on sait que l'ennemi était les chansons du roi, donc ça veut dire que c'est lui qui servait le vin du roi. Et c'est vrai que c'est une tâche très grande parce que à ce moment-là, les rois avaient très peu confiance en leurs sujets qui voulaient tous un peu prendre sa place. Donc les chansons pouvaient lui aussi servir du mauvais vin ou empoisonner. Donc il fallait avoir une réelle confiance dans cet homme, dans cette personne pour être capable de dire j'ai confiance que ce que tu vas goûter avant moi, ce que tu me donnes est bon. Donc il dit que cet homme accueille sa demande avec compassion, parce qu'il sait que le roi peut simplement dire non, ou il peut même le tuer, parce que le roi avait toute liberté pour tout le peuple qui était à côté de lui. Donc Néhémie prie pour lorsqu'il va se présenter ce projet de retourner à Jérusalem, le roi puisse bien l'accueillir. Donc il fallait avec tact et préparation pour que cette demande puisse être accueillie et recevoir l'assentiment du roi. Donc Néhémie fait bien son travail et l'empereur a confiance en lui. Mais à cause de la situation à Jérusalem, à cause de la tristesse, du jeûne, des pleurs que Néhémie fait jour après jour devant Dieu à cause de la situation à Jérusalem, le roi remarque sa tristesse. On voit le témoignage quand même de Néhémie aussi là-dedans, parce que Néhémie va toujours se présenter devant le roi d'une façon juste. Et le roi a confiance en lui, mais il le connaît. Il a eu l'occasion de parler avec lui. Donc il voit quand il est triste, il voit qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi t'as la raison. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu pour partager sa peine, la raison de sa tristesse. Mais comme il dit, il a la crainte, parce qu'il ne sait pas comment que le roi va l'accueillir. Mais grâce à ses prières, grâce à son témoignage depuis de nombreuses années devant le roi a bien accueilli sa demande. Donc Néhémie, on sait, va demander des lettres pour les gouverneurs des pays qu'il va traverser afin qu'il puisse aller sain et sauf, qu'il n'ait pas d'ennui, ainsi des lettres aussi pour avoir du bois pour la réparation des portes. Et on voit la fin du verset 8, Néhémie chapitre 2, verset 8. « L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. » La bonté de Dieu était présente parce que ce n'est pas le projet de Néhémie, c'était le projet de Dieu qui a été mandaté, qui a été préparé, Néhémie, qui a préparé Néhémie à l'accomplir. Dieu a vu le cœur de Néhémie, de comment il se sentait concerné par la situation qui se passait à Jérusalem, comment il a prié avec insistance, avec persévérance, dans un esprit d'humilité et de tristesse. Dieu a vu tout cela et c'est pourquoi que la faveur de Dieu est sur lui. Alors posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que la faveur de Dieu est sur nous? Est-ce que la faveur de Dieu est sur notre famille? Est-ce que la faveur de Dieu est sur notre Église? Une question que chacun de nous pouvons réfléchir, voir, dire, Seigneur, est-ce que je suis dans tes voies? Est-ce que si je vois l'exemple de Néhémie, est-ce que je suis en train de le faire aussi dans mes prières, avec humilité, avec insistance, avec persévérance? Est-ce que je suis en désolation lorsque je vois des hommes et des femmes se perdre dans le péché? Est-ce que quand je vois ce qui se passe autour de nous, au lieu de peut-être de critiquer, je suis dans la prière, dans l'intercession. Alors maintenant, regardons la suite. La préparation de Néhémie est là, donc il part à Jérusalem. Hein? On sait que ça va prendre du temps, ça va prendre au moins 4-5 mois de voyage. Donc, ouvrons notre Bible, lisons Néhémie chapitre 2, versets 9 et 10. On va lire le verset 9 et 10 du chapitre 2. Il dit... Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par les officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sambala le Héronite et Tobia le fonctionnaire ammonite apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Donc l'empereur, ce n'était pas la demande de Néhémie, mais l'empereur aime tellement Néhémie et qui veut le succès de sa mission, qu'il va lui donner des cavaliers pour le protéger. On sait que quand même la route était dangereuse aussi, et il veut que vraiment il puisse réussir, qu'il puisse arriver sain et sauf à Jérusalem. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est que comme l'empereur a donné des cavaliers pour pouvoir protéger Néhémie, le Seigneur veut que lorsqu'il nous donne une mission, il veut nous donner au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on a besoin pour remplir notre mission. Combien de fois on a pu voir dans nos propres vies que le Seigneur a été là autour de nous, nous a protégés, nous a permis d'avancer malgré les situations difficiles. Et on sait justement, premièrement, on le voit que les dirigeants de l'autre côté de l'Euphrate ne sont pas contents que quelqu'un vienne, comme il est dit, pour œuvrer au bien des Israélites. Et déjà, il y a des mécontents. Déjà, il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues, comme on pourrait dire, pour permettre que cette mission de Néhémie puisse échouer. Mais même là, Néhémie va aller avec délicatesse, avec témoignage. Il ne va pas dire j'ai l'approbation de l'empereur, vous ne pouvez rien faire. Il va simplement aller vers eux, il va leur donner les lettres et il va continuer. On va le voir plus tard dans les autres chapitres comment il va revenir avec ces personnes, puis comment il va leur dire qu'ils n'ont aucun apport avec eux à Jérusalem. Donc avant même d'avoir posé la première pierre de reconstruction du muraille, il y a déjà des mécontents de l'opposition. Dieu connaît toute notre vie. Il connaît que lorsque Dieu nous donne une mission, à notre travail, dans notre voisinage, à l'église, qu'il veut nous préparer. Il veut nous préparer parce que l'opposition sera là. L'ennemi, le diable, ne veut pas que justement la mission que Dieu nous confie puisse avoir du succès. Et il va dès le début s'acharner sur nous. Voilà pourquoi que nous avons souvent des situations difficiles. Je me rappelle un jour, nous étions responsables d'une retraite pour célibataires et personnes seules. Et dans ces temps qu'on vivait, on vivait toujours des belles choses, des guérisons, des restaurations vraiment dans ces personnes par rapport à leur cheminement chrétien. Et ce jour-là, on a rempli notre van, toutes les affaires et comme ça, et on part sur l'autoroute. Et à un moment donné, on se rend compte que notre voiture n'a plus de frein. Mais vraiment plus de frein. Donc là, on dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas continuer. Donc heureusement, on a réussi à se mettre de côté. Puis tranquillement, on est sorti de l'autoroute. Puis après, on dit, qu'est-ce qu'on fait là? On avait au moins une heure de route pour aller à l'endroit de la retraite. Et là, on a vraiment senti, disant, ça c'est les attaques de l'ennemi. Il voulait nous perturber pour pas que justement que les bénédictions de Dieu puissent arriver. Et Dieu a quand même exaucé nos prières parce qu'heureusement, en allant sur le chemin, on a trouvé une compagnie de location de voitures. Ils nous ont pu trouver une van rapidement, en quelques, ben, quand même 15-20 minutes, on a pu avoir une van pour partir. C'est sûr que tout cela, ça nous a mené un peu dans le stress, on arrivait un peu juste. Mais je peux vous dire que durant cette fin de semaine, on a vécu des choses, des guérisons, avec les célibataires, les personnes seules, d'une façon incroyable. L'ennemi travaille. L'ennemi veut nous décourager même avant de poser la première pierre de la reconstruction de la muraille, de l'église, de notre vie. Donc au verset 11, on voit qu'enfin Néhémie arrive à Jérusalem. On peut dire maintenant que Néhémie est arrivé sur place, son plan est prêt. Pendant les 4 mois de voyage, il a pu vraiment bien réfléchir à tout ce qu'il allait faire. Rappelez-vous qu'il est échanson, hein? Il n'est pas reconstructeur, il n'est pas rénovateur, il n'a pas pris un cours pour pouvoir faire la rénovation, parce que jamais peut-être dans sa vie il pensait de recevoir cette mission de Dieu. Mais on pourrait dire tout de suite, Néhémie va arriver, puis hop, il va se mettre tout de suite au travail. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Lisons justement le chapitre Néhémie, chapitre 2, versets 11 à 16, de voir qu'est-ce que Néhémie va faire. À partir du verset 11, il est dit, « Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restais 3 jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. » Je poursuivis vers la porte de la source et je passais près de l'étang du roi, mais il n'y avait pas de passage pour ma monture. Verset 15, prochain dia. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrais par la porte de la vallée. Verset 16. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé de ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est quand même intéressant de voir comment Néhémie se prend dans cette mission. Quelque temps avant, il a été vers les fonctionnaires, les responsables à l'autre côté de l'Euphrate pour leur donner les lettres, pour leur dire, voici, j'ai une mission par l'empereur pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais lorsqu'il arrive en ville, à Jérusalem, il ne va pas vers les notables, il ne va pas vers les responsables. Il prend le temps d'écouter, d'examiner, de regarder l'état des lieux, de regarder qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il va voir sur place. Là, il est dit qu'il va, il va avec quelques hommes. Et même, il y a des places tellement que l'état de muraille est tellement, je veux dire, magané, comme on pourrait dire, tellement abîmé que même son cheval ne passe pas. Je crois que vraiment, dans ce temps-là, c'est là que Néhémie a reçu vraiment le plan de Dieu. Imaginez, il n'avait pas de plan avant. Il n'avait pas, je veux dire, des photos que quelqu'un lui avait données, dire, ben voici l'état, puis prépare un peu ton plan, ton projet, comment tu vas faire, etc. Non. Mais dans ce temps-là, quand il va de nuit, il va regarder, et il va regarder, puis Dieu va lui préparer, Dieu va lui donner la façon de faire les choses. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ce temps où Néhémie va regarder l'état des murailles? Est-ce que c'est possible qu'avant de commencer un travail dans la mission que Dieu veut nous confier, d'examiner le travail à faire, de réfléchir pour voir quelle est la meilleure méthode à faire? Lorsque je vois justement cette attitude de Néhémie depuis le début, je réalise qu'il voulait tout ce qui se fasse vraiment selon Dieu, que ça se réussisse. Mais pour moi, ce temps avant de commencer l'ouvrage, même avant de se présenter devant les responsables de la ville, d'aller de nuit sans éveiller de soupçons, c'est le temps pour Néhémie d'écouter Dieu. Comme j'ai dit, je crois que Dieu va lui donner le plan, va lui donner la stratégie à faire pour réussir. Parce qu'on va voir que plus il avance, plus il va avoir de l'opposition. Et dès que l'opposition est là, Néhémie sait exactement ce qu'il faut faire. Rappelez-vous qu'il a construit la muraille en 52 jours. Donc, il ne pouvait pas s'arrêter parce que réfléchir, « OK, là, il y a des changements, qu'est-ce qu'on va faire ?» Dieu lui a donné les plans, Néhémie a écouté. Durant toutes ces heures, seul, avec Dieu, pour comprendre ce que Dieu voulait lui dire, de comment commencer, de quoi faire, comment le faire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'attitude de Néhémie? Depuis quelque temps, on vous dit qu'on aimerait mettre un plan de revitalisation pour notre Église, c'est-à-dire un plan qui nous permette justement de renouveler l'engagement de l'Église, de renouveler notre désir de servir le Seigneur, de permettre que l'Église puisse rayonner autour de nous. Mais ce plan ne peut pas se faire si on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Nous, en tant que responsables, moi-même en tant que pasteur, on a des idées, mais on a besoin avant tout d'entendre, de comprendre les directives de Dieu, de comprendre le travail pour le pasteur, pour le comité officiel, pour les leaders et même pour tous les membres et amis de l'Église. Est-ce qu'on n'a pas un autre exemple dans le Nouveau Testament d'une personne qui, avant de partir en mission, a pris le temps d'écouter, de prier? Est-ce que vous vous rappelez de qui c'est? Qui a pris un temps avant de pouvoir commencer la mission? Jésus. Lorsqu'il a été baptisé, il était après poussé dans le désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné, il a prié. Il s'est préparé. Il a pris ce temps de connexion avec son Père. Et même dans ce temps-là, l'ennemi est venu le tenter. Par plusieurs fois, il a voulu dire, mais tu peux, si tu m'adores, je te donne toute la terre, etc. Tu peux même te lancer du temple, ton Dieu, ton Père va tellement être gentil pour toi, va t'aimer, qui va amener des anges pour te protéger. Mes amis, si nous voulons réussir dans les projets, les missions que Dieu nous confie, dans notre vie et dans celle de notre Église, on doit avant tout se préparer dans la prière et dans le jeûne, dans l'humilité, dans l'écoute du Saint-Esprit, afin d'examiner c'est quoi l'état des murailles de l'Église, c'est-à-dire c'est quoi qui est bâti sur notre Église, de comprendre peut-être les brèches qu'il y a dans notre vie personnelle, comme dans celle de l'Église. Parce que l'ennemi, justement, a réussi avec le temps de pouvoir avoir des brèches, des cassures, des fissures, et qui permettent que on n'arrive pas à rentrer pleinement dans la mission, on n'arrive pas à rentrer concrètement dans le temps que le Seigneur veut pour nous donner. Rappelez-vous le verset 12 d'Ésaïe 58 avec les quatre R. Rebâtir, relever, réparer, restaurer. C'est ce que le Seigneur veut encore pour nous personnellement et ensuite pour l'Église aussi. Parce qu'avant de construire ou de reconstruire l'Église, nous devons nous reconstruire nous-mêmes, nous devons restaurer nous-mêmes, nous devons nous-mêmes nous relever. Depuis cet été, donc, on a fait une série de prédications sur l'importance de la prière, de comment que nos prières soient tournées vers l'adoration de Dieu. comme on a dit, de tourner nos regards vers la face de Dieu, d'adorer Dieu, de contempler Dieu avant de demander sa main, avant d'arriver avec nos besoins. Comme on a dit souvent dans nos prières, on vient tout de suite, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens, bénis-moi. Seigneur, tu vois mes situations. Le Seigneur veut nous écouter, mais avant tout, la prière doit être un lieu d'adoration. Je viens devant Dieu pour reconnaître qui est Dieu. C'est ce que fait Anémie à faire dès le début. Il a dit, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas arrivé directement avec les problèmes qu'il y avait à Jérusalem. Il a reconnu la majesté et la grandeur de Dieu. Donc vous avez vu que depuis un certain temps, nous avons mis plus de place de la prière dans nos célébrations. Parce que nous croyons que la prière doit être centrale dans notre vie. Nous avons besoin de cultiver cette culture de prière, de cette connexion. La prière, c'est autant la louange, la prière, la prédication, c'est ce que nous faisons aussi ce matin. Mais nous voulons prendre plus de temps dans la prière réelle. Voilà pourquoi que on veut, prochain dia, on veut voir peut-être pour dans ces prochains temps, on va vous dire au fur et à mesure un peu, pour que notre église soit un lieu de prière. Hein? Matthieu chapitre 21, 13, vous connaissez ça. Jésus, quand il a chassé les voleurs, les échangeurs qui étaient dans le temple, qui étaient là pour une bonne raison, c'est-à-dire d'aider les pèlerins qui arrivaient au temple pour pouvoir acheter une brebis pour le sacrifice ou bien changer l'argent pour donner une offrande au temple. Mais tout ça, c'était un commerce que même les sacrificateurs, les lévites, gagnaient là-dessus. Et Jésus a été fâché, il a renversé toutes ces tables et il a dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une repaire de brigands. L'auteur du livre « La prière, comment prier ensemble façonne l'Église » va dire « Là où la prière est présente, elle dit quelque chose, elle parle, elle crie, elle enseigne à l'Église que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Quand la prière est absente, cela renforce la supposition qu'on va bien sans Dieu. » Ah oui, c'est vrai qu'on peut prendre des temps pour prier par rapport à des besoins personnels comme on le fait. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps vraiment de chercher la présence de Dieu? Hier, nous avons fait un peu d'exercice avec le comité officiel. On a repris un peu la prière de Néhémie et de voir un peu comment est-ce que ça peut nous toucher pour justement dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi l'état des lieux de l'Église? Et on vous donnera au fur et à mesure un peu nos différentes réflexions pour aller de l'avant. Mais il y a une chose que nous aimerons développer. On le fait, c'est vrai, les temps de prière durant la semaine, le mardi et le samedi. On fait encore une fois par un mois la soirée Impact Prière. Mais on réalise qu'au début, les gens étaient là, motivés, encouragés, puis petit à petit, d'autres personnes ont petit à petit disparu, puis on ne les voit pas. Donc c'est vrai que, et même hier, on disait, les gens disaient, mais on est tellement pris par tellement de choses. Et c'est vrai que la société, la famille, le travail, les obligations font qu'on est beaucoup occupé. Alors on s'est posé la question, le dimanche matin, puisque nous sommes présents, est-ce que nous ne pouvons pas prendre ce temps de prière? Et nous sommes en train de réfléchir pour voir l'occasion peut-être de commencer le culte avant, comme peut-être vers 9h30, pour prendre au moins un 40 minutes de prière. Mais pas une prière comme on le fait. On va vous enseigner une façon de prière qui soit dynamique. Pourquoi que les gens généralement ne restent pas dans les prières? Et ça, tous les pasteurs à qui je partage et dans toutes les rencontres de pasteurs qu'on a, il y en a toujours la même chose. Les gens ne viennent plus aux rencontres de prière parce que c'est plate, parce que les gens racontent un peu leur misère, parce que peut-être on prend tellement de temps à expliquer les besoins qu'on n'a même plus le temps de prier, parce que les prières sont tellement longues que les gens s'endorment et comme ça. C'est la réalité malheureusement. Mais on a besoin d'avoir une prière qui est audacieuse, une prière qui est dynamique, une prière qui ne va pas selon nos regards à nous, mais selon l'Esprit de Dieu. La semaine passée, nous étions justement, il y a plus d'une semaine, avec les pasteurs de l'Église méthodiste du Canada dans un temps de retraite, une conférence. Et on a eu l'occasion d'avoir différentes personnes qui nous ont témoigné. Et il y avait un pasteur qui nous a témoigné comment qu'ils étaient très peu de personnes, même moins de 10 personnes dans leur église. Et ils pensaient peut-être fermer l'église parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait comme ça. Ils ont commencé à prier vraiment, chercher Dieu. Et en quelques temps, ils ont pu baptiser plus de 8 personnes. Et aujourd'hui, ils nous disaient comment que si tout le monde est là, ils sont presque une quarantaine de personnes. On a entendu d'autres témoignages, comment que Dieu agit Dieu agit lorsque son peuple recherche sa face. Lorsqu'il s'humilie, prie, recherche la face de Dieu, comme on le voit dans 2 Chroniques, Dieu va agir. Nous devons rebâtir les murailles de notre Église afin de voir ce que le Seigneur pourra agir avec puissance. Vous savez que nous arrivons dans un temps difficile. Vous avez entendu parler de tout ce qui se passe avec ce rapport sur la laïcité, ces prières dans les rues qui vont peut-être être interdites. Tout ça, on voit comment le gouvernement veut enlever la religion, veut enlever cette liberté que nous avons de célébrer Dieu. Et même dans ces différentes choses qu'ils veulent mettre par rapport à la loi de la laïcité, il y en a plusieurs que s'ils sont mis en place, on dit que le régime sera beaucoup plus sévère qu'en Chine. En Chine, là, les chrétiens ne peuvent pas se rassembler. Ils sont persécutés, sont mis en prison. Donc, on ne va pas être mis en prison au Québec. Mais dans le sens qu'on ne pourra plus forcément donner des dons et puis on va recevoir un reçu d'impôt. Les églises vont payer des taxes comme les autres. Et ça peut représenter entre 20 et 30% du budget. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On voit autour de nous comment que Dieu est en train d'agir. Je ne sais pas si vous lisez un peu les nouvelles chrétiennes, mais on voit par exemple en Angleterre qu'il y a un réveil parmi la jeunesse. En France, même dans les milieux catholiques, dans le temps de Pâques, ils ont baptisé plus de 10 000 personnes, dont le 60% c'était des jeunes. Des jeunes. On entend aussi au Québec, à des places où Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Nous voulons vivre cela aussi à Saint-Henri. Nous voulons permettre que les gens de ce quartier puissent connaître Christ. Nous voulons que nos jeunes puissent vraiment être engagés, vraiment dynamiques pour le Seigneur, pour qu'ils soient des témoins là où ils sont. Mais pour cela, nous devons, comme Néhémie, observer, examiner l'état de notre cœur, comment notre marche avec Dieu se fait. Nous devons écouter Dieu qui veut nous parler à travers le Saint-Esprit, afin de nous révéler les brèches de notre cœur, de notre vie, afin que nous puissions les restaurer, les réparer, pour devenir un chrétien authentique, plein de vie pour le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons prendre le repas du Seigneur, qui est un rappel de ce que Jésus a fait pour nous. Lui, le Fils de Dieu, a accepté dans toute humilité à venir sur terre, pour être sacrifié pour nos péchés, pour nous permettre d'avoir une vie nouvelle. Et il nous dit de nous rappeler, afin qu'on n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour nous. Et que ce sang, que ce corps qui a été brisé nous sauve encore aujourd'hui. Que ce sang et ce pain, cette coupe qui représente aussi son sang, ce pain qui représente son corps, puisse encore continuer de nous rebâtir, de nous relever, de nous restaurer pour le Seigneur. Alors simplement courbons notre tête. Prenons juste quelques instants avant d'aller dans le repas du Seigneur. De voir si peut-être dans notre vie nous avons perdu quelque chose. S'il y a peut-être des brèches, laissons l'Esprit de Dieu nous montrer s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être qu'il n'y a même pas des choses peut-être qui sont des péchés, mais peut-être des choses qui prennent trop de place dans notre vie et qui manquent de temps pour pouvoir être avec Dieu, être à l'écoute de Dieu, pour être plus de temps peut-être avec les personnes de l'Église. Le Seigneur veut nous inviter ce matin à venir dans sa présence pour que nous puissions goûter à ce qu'il est pour nous. Toute sa miséricorde, son amour, sa compassion pour nous, pécheurs. Et il désire que nous puissions aussi prendre ce repas pour demander encore sa grâce, son pardon pour nos péchés, pour nos manquements, mais aussi pour nous engager à dire, Seigneur, tu t'es engagé dans cette mission d'aller jusqu'au bout de ce que ton Père voulait. Donne-moi la force, donne-moi le courage de m'examiner, de t'écouter, pour pouvoir remplir la mission que tu m'as donnée. Chacun de nous avons une mission. Déjà en tant que chrétiens, nous sommes là pour continuer de proclamer, de témoigner qui est Jésus, ce que Jésus fait dans notre vie, autour de nous. Des personnes ont reçu d'autres missions plus spécifiques, peut-être au sein de l'Église, peut-être un autre ministère particulier. Dieu veut tous nous utiliser dans sa mission. Comme Néhémie, il va nous équiper, il va nous donner la réussite si nous agissons selon lui. Donc, écoutons cette confession, cette prière de confession qu'on a besoin de pouvoir avant de prendre les éléments. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, Juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et quand ton amour, nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regretterons profondément d'avoir mal agi, de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne venons pas à ta table, ô Seigneur miséricordieux, avec orgueil et suffisance et croyant de notre propre justice, mais nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes sous ta table. Toi, ô Seigneur, tu ne changes pas dans la miséricorde, parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir en esprit et en vérité le corps de ton cher Fils, Jésus-Christ, et de même que les mérites accordés par son sang versé, afin qu'en étant lavés et purifiés par nos sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Alors entendons cette prière de consécration des éléments. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par amour, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort à la croix pour notre achat. Ton Fils qui, par son sacrifice, s'est offert une fois pour toutes, a accompli une expiation suffisante, parfaite et totale pour les péchés du monde entier. Nous venons maintenant à la table par obéissance à ton Fils Jésus-Christ, qui dans son saint évangile nous ordonne de commémorer de façon perpétuelle sa mort précieuse jusqu'à son retour. Entends-nous, ô Père miséricordieux, car nous te demandons humblement de nous accorder en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné, en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où fut livré, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit en donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On va demander au pasteur Herman de prier pour ce pain qui représente son corps brisé pour nous.
Oui, Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour l'action que tu as faite quand tu venais dans ce monde pour être maltraité, frappé. Tu as subi les mal de toutes sortes à cause de nous. À ce moment, Seigneur, que nous prenons son pain, nous te disons merci. Merci. Parce que tu nous l'as dit pour commémorer, pour se rappeler de cet acte, Seigneur, que tu as posé, de se rappeler de ce chemin que dans lequel tu es passé pour nous retrouver. Merci, Seigneur, pour toute la douleur que tu as subie, mais pour nous sauver. Pour nous racheter. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. De même, après le repas, il prit la coupe et après rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On dit à notre frère Antoine de prier pour cette coupe qui représente le sang qui a été versé pour nous.
Oui, Dieu notre Père, merci. Merci parce que tu nous l'as dit, que chaque fois que nous allons boire de cette coupe, que nous pensions à toi, que nous pensions à ton amour, que ça représente ton sacrifice, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous as dit que chaque fois que vous en boirez, pensez à moi et qu'elle soit perpétuelle, Seigneur. Oui, nous pensons à ton amour, nous pensons à ton sacrifice. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Merci, Seigneur, nous sommes très reconnaissants. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. On peut se lever pour recevoir la bénédiction de Dieu, hein, pour que nous puissions aller de l'avant dans notre vie, dans cette reconstruction, dans cette restauration. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps, vos cœurs et vos esprits dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, à notre Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous maintenant et à jamais. aller dans la paix du Seigneur. Amen.